Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e assises pour la ville de Nanterre.
Debout là-dedans. Alors allons, debout là-dedans.
Debout.
Debout. Debout là-dedans.
Debout.
Et si demain, les services publics devenaient accessibles à tous et en tout lieu, vous enterriez quoi ?
Autre thématique, c'est accéder aux services publics. Est-ce que vous trouvez qu'à Nanterre, vous accédez suffisamment aux services publics, qu'ils soient culturels, sanitaires ?
Culturels, moi je pense que oui. Parce qu'en vrai, à Nanterre, on propose beaucoup de sorties et tout dans le cadre de Nanterre. D'autant plus qu'il y a beaucoup de variantes, telles que le pass 92, le pass culture et tout. Donc du coup, ça aide beaucoup les jeunes personnes à en banlieue ou même dans la vie de tous les jours à se cultiver de jour en jour. Donc en vrai, oui.
Je dois avouer qu'on n'est pas à plaindre à Nanterre au niveau... rien que la CIGE, en soi, c'est déjà quelque chose de public et j'ai pas eu tout de mal à accéder à ça. Il faut savoir se renseigner. Je pense que c'est le plus gros problème de plein de jeunes, c'est qu'ils se renseignent pas et font rien pour s'aider aussi. La ville, je pense qu'une des raisons pourquoi on est autant en faillite de réussite, c'est pas forcément parce qu'elle donne pas, c'est que de base elle donne, mais les gens prennent pas forcément les occasions. Et bon, il y a toujours des failles dans la ville, hein, au niveau administratif. J'ai j'aurais plein de choses à dire et qu'on pourrait faire évoluer et améliorer. Mais pour le coup, non, au niveau santé, on n'est pas à plaindre.
J'ai l'occasion avec mon lycée de pouvoir aller voir du théâtre assez fréquemment et c'est super intéressant de pouvoir participer à ça en sachant que peu. Peuvent faire ça. J'ai une amie à moi en Corse, c'est complètement en dehors, mais pour faire un parallèle, elle fait aussi un lycée général pareil que moi avec une spécialité théâtre. Elle voit 2 à 3 pièces par an. J'en vois presque une tous les mois. C'est on est beaucoup plus présent, disons, sur le domaine de la culture par rapport à beaucoup de gens en France.
Ce qui me plaît le plus au niveau des transports, il y a peu importe là où je dois aller sur l'île de France, je peux, dès que je suis en Inter, c'est un peu comme le carrefour de l'île de France. À mon humble avis, d'après ce que j'ai pu constater, dès que je prends le A, peu importe là où tu veux y aller, tu le prends et après tu continues ton trajet.
Je pense que réellement, beaucoup de gens sont délaissés sur différents quartiers à Nanterre.
Et c'est vrai que moi, j'adore ce qu'a mis en place Jamé sur Speak Louder, qui nous permet du coup à nous, certains jeunes qui ne sont pas forcément bons en cours ou qui veulent s'améliorer sur l'éloquence, que c'est un monde qui m'intéresse profondément. Ça donne foi et ça donne espoir.
Et si on a une médiathèque juste à côté, on a des espaces où on peut travailler, ça peut parfois aussi créer des espaces où ça peut recréer des liens, un rapprochement entre les habitants du quartier, et ça serait cool, quoi. Ouais.
Quand je compare avec des pays comme les États-Unis par exemple, tu peux même pas mourir en paix, tu dois payer. Là, on est bien.
Et ouais, on est d'accord. Ici à Nanterre et en France, on est bien. Mais à votre avis, que peut-on imaginer pour être encore mieux ? Allons bon, messieurs, dames, debout là-dedans !
Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e assises pour la ville de Nanterre.
Cette 3e thématique autour de l'accès aux services publics a été introduite par 2 élus de la ville.
On a besoin de vos avis, on a besoin que vous vous exprimiez. Et avec tout ça ensuite, on verra bien si sur certaines politiques publiques, et en particulier aujourd'hui, je m'arrêterai là après, il s'agit du service public, notion qui est très très mise à mal, de savoir si nous, l'équipe municipale, nous faisons sur certaines politiques stop, ou encore, ça va vous rappeler une certaine émission à la radio, c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur la question des services publics. Voilà, je vais donner la parole à Nadine parce que sinon je suis capable de parler pendant 2 heures.
Merci Zara. Donc l'atelier de ce soir, c'est l'accès à la santé et aux services publics. Nous avons traversé plusieurs crises et nous savons que les populations précaires et vulnérables sont bien souvent celles qui en souffrent le plus. Et pourtant, 2/3 des personnes éligibles aux aides sociales ne les demandent pas. Le service public subit également ces crises à répétition et hérite de choix politiques des gouvernements successifs. Je vais vous donner quelques exemples qui suffisent à s'en convaincre. Les hôpitaux publics et leur personnel ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le manque de moyens accordés par l'État pour soigner dans les meilleures conditions possibles. Il y a également les fermetures de classes et le manque de professeurs qui sont fréquemment dénoncés par les associations des parents d'élèves ainsi que les équipes enseignantes. Et à Nanterre, ville de mixité, de solidarité, la question de l'accès aux services publics et à la santé se pose d'autant plus fortement qu'il s'agit d'un véritable enjeu d'égalité des droits. Et c'est au nom de cette conviction que la ville de Nanterre se mobilise, par exemple pour la défense de l'hôpital Max Forestier. Comme vous le savez, l'hôpital était menacé de disparaître il y a à peine quelques années. Et on ne va pas se mentir, la question de l'accès aux services publics et à la santé est de plus en plus difficile à tenir dans un contexte où la ville subit des contraintes budgétaires toujours plus fortes. La mise à mal des services publics par des choix gouvernementaux qui en restreignent davantage chaque année les moyens. Il y a aussi le refus du département pour l'action sociale, de la région pour l'insertion professionnelle, d'assumer véritablement les responsabilités. À Nanterre, les associations font un travail précieux et elles sont les premières à le déplorer parce qu'attachées aux valeurs de solidarité et de justice, elles sont contraintes trop souvent de pallier ces carences, notamment face à la saturation des places d'hébergement d'urgence, les délais de renouvellement des titres de séjour, le manque de prévention des expulsions locatives. Aucune politique de justice sociale ne peut être menée sans des services publics forts et modernes. Alors, comment maintenir les services publics de proximité de qualité avec des moyens toujours plus contraints? Dans un sondage que la ville a fait réaliser à la fin de l'été, les Nantériennes et Nantériens se sont dit très majoritairement satisfaits de l'action conduite par la ville et étaient lucides sur ce qui relevait du service public municipal, de l'État ou d'autres collectivités. Et dans le contexte que je viens d'évoquer, nous entendons poursuivre notre action en faveur d'une ville pour toutes et tous et l'améliorer. Donc on aimerait savoir ce soir, qu'en pensez-vous? De quel service municipal avez-vous besoin? Dans quel domaine souhaiteriez-vous que des évolutions soient apportées? Lesquelles? Nous comptons sur vos idées, vos témoignages, vos propositions pour construire ensemble une réponse commune à ce défi. Merci.
Merci beaucoup.
Je vous propose maintenant d'écouter les idées des Nantériens sur cette vaste thématique que représentent les services publics. À vos notes.
On a pas mal de constats et beaucoup de constats négatifs. Donc on a remarqué qu'il y avait de moins en moins de médecins sur Nanterre et que Nanterre faisait partie d'une zone rouge, que le ratio population-médecin était insatisfaisant. Pourquoi à l'hôpital de Nanterre, il y a eu des fermetures de services alors qu'il y a un vrai besoin sur la ville?
Alors, en point positif, il y a quand même le fait qu'il y a plusieurs nouveaux centres médicaux. C'est toujours pas suffisant, mais il y a plusieurs centres médicaux à Georges Clemenceau, le médipôle du quartier de l'université, par exemple.
Problème d'accessibilité au dossier MDPH, donc forcément difficulté à accéder à ses droits au niveau de la santé. Je dirais que la dégradation, elle se fait aussi ressentir au niveau du médico-social, et notamment, on le voit plus dans la prise en charge des enfants.
Et ensuite, ça recoupe pas mal les questions de médecins traitants, de difficultés à joindre des spécialistes. Et du coup, pour les urgences, c'est compliqué quand il y a six, huit mois d'attente pour des traitements urgents, ça marche pas.
Il y a la prise en charge des soins pédiatriques pour les enfants en situation de handicap, ce qui est carrément inexistant sur la ville de Nanterre.
Et l'autre sujet en termes de constats négatifs, qui est un sujet très d'actualité, cette possibilité cette suppression de l'aide médicale de l'État pour les personnes en situation irrégulière. Et du coup, dans les propositions, en regard avec nos constats, avoir des urgences pédiatriques à Nanterre, rénover les urgences, par exemple, sur le modèle de l'hôpital Foch, avoir des temps de sensibilisation, de rencontres avec l'hôpital, que ce soit par exemple des journées portes ouvertes dans l'hôpital, pour que les gens qui arrivent sachent, qui arrivent ensuite pour un parcours de soins, sachent se comporter avec le personnel de l'hôpital, comprendre un suivi, comprendre comment on est pris en charge, qu'est-ce que c'est l'attente à l'hôpital, enfin mieux comprendre et avoir une meilleure relation avec l'hôpital.
mais on aimerait bien qu'il y ait le soutien du coup de la ville de Nanterre pour développer une maison médicale. Et l'exemple était que on pourrait utiliser les médecins retraités qui pourraient intervenir une fois par semaine pour faire fonctionner cette maison municipale. Et apparemment, ça fonctionne très bien à certains endroits.
Proposer une maison médicale mutualisée, où il y aurait différents services. Ça se recoupe un peu avec ce qu'on a, on va dire tout à l'heure peut-être sur l'accès au droit, qui serait la maison pour tous. En fait, c'est un lieu commun où les gens pourraient partager, où les gens pourraient partager, où il y aurait des professionnels, des usagers de la santé et de l'accès au droit, des professionnels et non professionnels d'ailleurs, des pères aidants, publics, privés, effectivement, des espaces de coworking et des espaces potentiels de tout ce qui permet de rapprocher les gens, de rapprocher les professionnels, de travailler en mutualisation et en complémentarité.
Comme autre action vers le droit à la santé, on voulait développer l'offre de la mutuelle municipale. Il y a beaucoup de Nantériens qui n'ont pas une offre convenable ou pas d'offre du tout en termes de mutuelle.
On a fait le constat que les médecins avaient du mal à être remplacés dans des quartiers, donc il y avait des carences pour les soins des habitants.
Et on aimerait bien aussi qu'il y ait des aides de la part de la ville sur des soins bien spécifiques qui ne sont pas remboursés et qui ont pour conséquence de non prise en charge. Par exemple, un bilan neuropsychologique chez un enfant, c'est entre 500 et 700 euros. Mais pour que les patients, en fait, petits ou grands, puissent accéder à la santé, quoi, aux soins.
Tout en parlant de l'accès aux droits, l'objectif, c'est atteindre les services le plus vite possible. Donc, c'est la fameuse ville du quart d'heure, c'est-à-dire en un quart d'heure, avoir une cartographie des différents services qui existent sur la ville pour qu'il n'y ait pas ces ruptures. Donc, c'est faire une cartographie, en fait. C'est ça, Agnès ?
Oui, c'était une idée. L'autre idée, c'est qu'il y a plein de gens qui pourraient encore aller vers les structures, mais il manque les 300, 400, 500, 600 mètres pour y aller.
Oui, l'autre point, c'est que le CCAS a une convention avec l'association Nouvelle Voie qui fait de l'accompagnement juridique à domicile. Et donc, c'est un service qu'on utilise pour les personnes âgées. Hein, et donc, le CLIC est tout à fait en mesure de mobiliser ce déplacement d'un juriste de Nouvelle Voie à domicile pour débrouiller parfois certains dossiers administratifs complexes.
Premièrement, il faut que l'information soit partagée. Deuxièmement, il faut que les services eux-mêmes soient partagés. Troisièmement, il faut que les partenaires soient interpartenaires, c'est-à-dire privé, public, social, coworking numérique, etc. Donc, il faut, je veux dire, décloisonner ce qui est cloisonné aujourd'hui.
Ce qui serait important, c'est de développer une veille citoyenne de voisinage qui permette de favoriser la mise en contact des gens. Ça peut être intéressant parce que ça peut ne pas être cher, mais c'est cher à notre cœur en tout cas.
Constat positif sur l'action municipale, c'est la satisfaction des actions culturelles menées. Maison de la musique, théâtre des Amandiers, découvertes, parades, etc., culture du monde, et sportive. C'est vraiment important, je trouve, sur la ville. Une interrogation, par contre, en négatif, sur le sujet de dématérialisation service public, développer donc un meilleur accompagnement, notamment physique, des habitants.
Donc je voulais revenir sur le numérique. Hein. C'est vrai qu'actuellement, toutes les démarches sont dématérialisées et c'est un gros problème pour les habitants des quartiers populaires, notamment dans le Parc Sud dans lequel j'interviens. On a un gros souci, en fait, on a besoin d'avoir des interlocuteurs direct, en fait, pour des situations urgentes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Développer également la mobilisation des habitants afin que les subventions de l'État soient plus importantes. En proposition, mettre en place des pétitions avec dépôt au Parlement, exemple, vote du budget de la Sécurité sociale.
Ce qu'on proposait, c'est éventuellement de mettre en place un organigramme des services publics municipaux et État.
Le numérique semble être un moyen pour l'action publique de baisser ses dépenses, en baissant ses dépenses de personnel. C'est ce que disent les gens du groupe. J'ai l'impression que, en proposant que tous les services publics passent par le numérique d'abord, ça permet d'avoir moins de personnes dans des bureaux, des interlocuteurs, etc.
Et le dernier point, développer un point d'accueil physique au niveau du quartier. Donc, on a déjà la mairie de quartier qui est très efficace, mais peut-être aller encore plus loin pour aider les habitants.
Aujourd'hui, il y a pas mal de réseaux de solidarité qui se mettent en œuvre pour accéder aux services et utiliser le numérique parce qu'on est bien obligé d'y passer, mais que de temps en temps, ça demande une confiance et une transparence, notamment quand on donne ces codes pour le site Amélie qui donne accès à France Connect à tous les services publics, on ne peut pas donner ça à n'importe qui.
Nous, on a dit que ce qui était important, c'était quand même de ne pas lésiner sur le personnel humain et formé. Ça, on ne peut pas lésiner là-dessus. Et on a dit qu'il faut continuer à exiger des services publics parce que se dire il y a moins de moyens, moins de moyens.
Oui, j'ai une remarque à propos de la politique de Nanterre concernant le numérique, qui, à mon avis, fait fausse route depuis plusieurs années. Lors du mandat précédent, la ville de Nanterre a réduit le nombre d'ordinateurs disponibles pour la population, a supprimé des cours, notamment à l'Agora. L'Agora dispensait des cours d'initiation numérique toute la semaine, il y a quelques années. Le cours était plein, c'était un immense succès. Et quand le cours n'avait pas lieu, les ordinateurs portables qui étaient à disposition étaient toujours occupés. J'ai jamais vu si évidemment un investissement public aussi bien utilisé. Et ça a été supprimé.
Moi, j'ai travaillé dans le service public. On m'a présenté au début de l'informatisation de certains services comme une facilitation pour les personnels et un avantage aussi pour les usagers. Très rapidement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que on a substitué des emplois. Voilà, point à la ligne. Donc, la présence humaine, elle est fondamentale. Donc, il faut à la fois du personnel, leur formation, la bonne information qui circule, qu'ils doivent transmettre aux usagers, mais aussi que ces personnels, on ne les mène pas à bout jusqu'au burn-out, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle.
Et la proposition, ça serait arrêtons d'acheter tous des licences à Microsoft, etc. Et on pourrait faire une économie substantielle si les écoles et les professeurs faisaient juste l'effort de se convertir au logiciel libre, ce qui permettrait d'économiser les achats de licences. Je vais prendre une autre ville pour ne pas fâcher Nanterre. À Toulouse, ils ont fait cet effort. C'était compliqué parce que, évidemment, on est habitué à notre petite interface Windows. C'est normal. Ça a été une économie de 480 000 euros sur la ville.
Didier Dévor, élu en charge de la santé, a souhaité revenir sur certaines interrogations liées à sa délégation, directement devant les Nantériens présents ce soir-là.
Oui, bonsoir à tous. Donc Didier Dévor, élu en charge de la santé. Alors, je laisserai le maire conclure, si je n'ai pas l'ambition de conclure. Mais vous dire deux, trois mots quand même sur les questions de santé par rapport aux échanges. D'abord, rappeler que la santé n'est pas une compétence communale. C'est une responsabilité de l'État que de mettre en œuvre sur le territoire national l'accès aux services de soins dans sa globalité, hein, d'organiser la prise en charge médicale sur le territoire national. Vous savez que la ville de Nanterre est investie depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé, bien que ce ne soit pas une de ses compétences, et qu'elle y consacre des moyens assez conséquents, notamment à travers ses centres de santé municipaux. Sur les constats que vous avez faits sur l'accessibilité aux soins, l'accès aux professionnels sur le territoire, évidemment, c'est des constats que l'on partage. Alors, Nanterre n'est pas différent dans ce domaine-là de certaines d'autres villes de territoire, mais la démographie médicale est une vraie problématique sur notre territoire. Et comme ça est cité, effectivement, Nanterre est passé en zone sous-dense au niveau des professionnels de santé. Et donc, il nous faut réfléchir comment, avec l'Agence régionale de santé, comment on peut travailler pour créer de l'attractivité sur notre territoire pour qu'un certain nombre de professionnels voient l'intérêt de venir s'installer à Nanterre. Et donc, la question de l'attractivité est quelque chose d'important. Et vous avez fait citer un certain nombre de propositions. Sachez quand même que aujourd'hui, la ville met en place un accompagnement spécifique pour les professionnels de santé qui souhaitent s'installer sur le territoire. Donc, il nous faut poursuivre dans ce domaine-là. Le deuxième point que vous avez sollicité, c'est le financement des soins. Là aussi, dans le cadre du programme municipal, on a un engagement pour la mise en place d'une mutuelle dite communale. Aujourd'hui, nous avons bien avancé sur ce dossier. Au printemps, jusqu'à la fin du premier semestre, un questionnaire a été mis en œuvre. Certains d'entre vous ont peut-être été sollicités dans le cadre des différentes manifestations municipales. Ce questionnaire nous a permis d'identifier les besoins. Et aujourd'hui, après avoir consulté un certain nombre d'opérateurs pour voir si notre projet serait faisable, possible, nous en sommes à rédiger le cahier des charges pour sélectionner un opérateur. Et on a quand même l'objectif de pouvoir sélectionner un opérateur dans le courant du premier semestre 2024 pour une mise en place à partir de septembre 2024. Le dernier point que vous avez cité, c'est l'hôpital et la présence de l'hôpital sur le territoire communal. Vous l'avez dit, ça a été un combat important mené par la collectivité pour que l'hôpital de Nanterre reste sur notre territoire, reste ce qu'il est et qu'il ait vocation à prendre en charge tous les publics, y compris les publics précaires. Et vous savez qu'on a un très gros projet qui a été porté par le maire Patrick Jarry et qui reviendra dans les mains de Raphaël, bien entendu. Nous avons un gros projet autour de l'hôpital, de l'ouverture de l'hôpital sur la ville de Nanterre et bien sûr tout un projet autour de la prise en charge médicale au sein de l'hôpital au service des habitants. Voilà, c'était quelques mots que je voulais vous dire sur ce domaine-là.
Merci Didier, parce qu'effectivement c'est important, on est toute une équipe et donc on travaille sur plein de sujets. Je vais pas être très long et revenir sur effectivement la question de la ville du quart d'heure que j'ai entendu effectivement, et c'est quelque chose nous qu'on a visé notamment sur tout ce qui était de l'offre de santé, puisqu'on a fait en sorte de développer sur l'ensemble des projets quand on faisait de la rénovation urbaine d'avoir toujours un espace dédié à la santé. Alors, public, privé, on accompagne aussi sur la transformation parce qu'on a aussi un certain nombre de fermetures de services publics. C'est pas les services de la ville, mais on a des postes qui ont fermé notamment. Ça nous a permis de rouvrir un centre de santé sur la rue de Suresnes avec une offre aussi pour avoir des médecins généralistes, parce que quand on a débuté effectivement la séance, on évoquait la question de l'accès aux médecins généralistes, et on sait que c'est un enjeu compliqué, et surtout dans nos zones denses. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort pour nous. Il y a la question, vous l'avez dit, de l'accès aux services, alors à différents services, à la fois la connaissance des aides qui existent, de l'offre qui est présente sur le territoire, comment on peut la toucher. Donc on avait, nous, les mairies de quartier qui avaient été développées, mais avec du coup une offre principalement administrative dans les démarches qui étaient accomplies dedans. Donc c'est comment aussi demain, ça peut être un vecteur d'accompagnement, et notamment on parlait de la question de l'accompagnement dans le numérique, parce qu'il y a aussi une offre qui est intéressante avec le numérique, mais c'est comment on accompagne les gens, parce qu'effectivement, il y a la question de ce qu'on va lier l'électronisme aujourd'hui qui se pose. Donc comment on accompagne justement ce changement-là? Alors vous le disiez, il y avait la question aussi des associations. Alors j'avais entendu Emmaüs Connect qui fait des études et qui accompagne aussi les habitants via les réseaux, qui va les accompagner sur justement cette réalisation-là, la réalisation de démarches, d'inscriptions, d'ouverture des droits, puisque de plus en plus ça se développe. Alors il n'y a pas effectivement, à la fois comme sur le secteur de la santé, mais sur l'ensemble de l'offre, il n'y a pas qu'une offre municipale. Il y a les MDPH par exemple, sont gérés par, alors même s'il y a un accompagnement du CCAS, mais c'est une compétence du département, tout comme le volet de l'action sociale. Il y a les CAF. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a tout un travail aussi. Alors, ça passe par des maisons. On va mutualiser et accompagner justement ces démarches de réalisation d'actes d'enregistrement administratif. Et puis, un sujet qui était important, qui a été réévoqué plutôt à la fin, c'est sur la question aussi de l'accessibilité de l'école. Et l'accessibilité de l'école, là aussi, il y a un vrai sujet avec l'éducation nationale sur les AESH. Parce que c'est effectivement comment on met en œuvre ça. On a des classes Ulysse. J'étais en conseil d'école, c'est Neruda, et Neruda, elle était concernée en fait sur le taux. On a énormément d'enfants qui étaient en situation de handicap, et donc derrière, c'est quel accompagnement on a et comment on gère cet accompagnement-là, parce que c'est difficile aussi d'attirer. Il y a la question de l'attractivité de plus en plus aussi pour offrir des services. C'était les contrats aidés qui étaient utilisés pour l'accompagnement des AESH. Donc, il faut trouver aussi des personnes qui sont prêtes à venir sur des temps très courts, en réalité, sur la journée, pas avoir de temps plein, payer en contrats aidés. Donc, c'est des revenus minimums. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi pour l'éducation nationale de les avoir trouvés. Mais on a une vraie carence dedans. Et ça fait partie des demandes, des exigences qu'on a aussi et qu'on doit avoir collectivement vis-à-vis de l'offre et de l'égalité, effectivement, sur les services publics. L'accompagnement du numérique, donc sur la dématérialisation, mais aussi au niveau de la ville, on l'a développé de plus en plus. Donc ça permet aussi la dématérialisation de certaines démarches. Elle a aussi un intérêt, je pense à la question des factures, des inscriptions, de pouvoir faire directement des inscriptions, par exemple, pour les enfants sur les centres ou sur la pré-école. Ça permet aussi de désengorger une partie des services et de pouvoir aussi les remobiliser sur d'autres types d'activités, comme l'accompagnement. Donc tout ça, c'est des choses nous, qu'on va continuer à développer avec vous. Mais on a entendu effectivement cette question-là d'être sur la ville du quart d'heure, voire même moins, puisque sur nos quartiers, on est à moins d'un quart d'heure d'un point à l'autre. Donc comment on renforce ce maillage-là en proximité et en accompagnement aussi, en accompagnant la question de la dématérialisation, parce qu'il ne faut pas la voir comme uniquement comme une régression. Il y a quelle est la médiation qu'on met aussi derrière et le maintien de l'humain aussi. Parce que cette dématérialisation, elle permet un certain nombre d'avancées. Et donc, il faut qu'on puisse être effectivement dans cet accompagnement-là et dans aussi la solution. Alors, ça passe aussi par des mutualisations, des rapprochements avec les départements, les régions. On n'a pas forcément toujours la connaissance, effectivement, de ce qui se fait. C'est toujours ça un peu, c'est qu'on pâtit par le manque de connaissances sur les offres, actions, le recours. En fait, le non-recours, c'est un grand sujet. Ça doit nous interroger aussi sur le service public et sur l'accès au service public. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent ce soir. Je vous donne rendez-vous pour notre grand événement du coup de clôture des assises le 9 décembre à 17h au Palais des Sports. Donc venez nombreux, ce sera un programme festif où on pourra justement restituer l'ensemble des ateliers, des marches, et on aura encore, donc on a fait d'abord un certain nombre de déambulations dans les quartiers. On va rentrer maintenant dans le cycle des réunions d'appartements. Donc si vous avez aussi envie de nous accueillir dans les quartiers, on pourra organiser ces réunions d'appartements-là ensemble pour discuter, approfondir aussi les sujets qu'on a pu voir dans les ateliers. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup. Prochain atelier sur le thème Habiter la ville aujourd'hui et demain le 29 novembre.
C'était le mot de la fin par Raphaël Adam, nouveau maire de Nanterre. Et avant qu'on ne se quitte, nous aussi, je vous propose de finir cet épisode par l'écoute de quelques propositions faites en ligne sur participer.nanterre.fr.
Favorisons l'accueil de nouveaux médecins sur la ville de Nanterre en leur créant des conditions d'accueil optimales. Prenons la peine d'écouter ce que les corps professionnels ont à nous dire et écoutons leurs recommandations pour améliorer le parcours de soins. Multiplions les centres de santé municipaux pour ainsi favoriser l'accès aux soins des publics réticents à se soigner. Continuons à développer une politique de prévention santé à partir de tous les équipements fréquentés par la population, que ce soit les crèches, les écoles, la maison des femmes, les centres sociaux, etc. Instaurons davantage de maisons de santé dans notre ville. Faisons davantage d'informations et de prévention dans les collèges, les écoles et les lycées. Adaptons-nous aux besoins des personnes en situation de handicap et améliorons l'espace de notre ville pour qu'ils s'y intègrent plus facilement.
Debout là-dedans, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un nouvel épisode sur la quatrième et dernière thématique des Assises. Habitez la ville aujourd'hui et demain. D'ici là, prenez soin de vous et notez dans votre agenda la date du 9 décembre au Palais des Sports de Nanterre pour une soirée de restitution XXL des 7e Assises de Nanterre. Rendez-vous dès 17h30. À très vite, à plus !
Vous écoutez Debout là-dedans, le podcast des 7e Assises pour la ville de Nanterre.